Chat perché, par Richard Keller, chapitre 13. Le jeudi matin, de retour à leur bureau, les deux gendarmes travaillèrent sur les indices recueillis. La brigade des mœurs fut alertée au vu des fichiers trouvés sur l'ordinateur du suspect. Gilles fournit une image du disque dur à ses collègues, qui plancheraient sur les horreurs que collectionnait le sieur Drieux. Il les informa de son hypothèse à propos de la feuille volante portant des numéros de pages. Il pensait à la Bible. Sagol lui rétorqua que dans l'état actuel de l'enquête, cela n'apporterait rien de plus de découvrir ce que c'était réellement. Pourtant, Gilles souhaitait percer le mystère du caractère du fuyard. Il prétendait qu'il fallait d'abord déceler la personnalité des assassins. Pour cela, il admirait beaucoup les Anglo-Saxons mettant en place des profileurs qui collaboraient positivement dans la résolution des crimes, surtout pour les serial killers. La France possédait peu de spécialistes. La généralisation se faisait attendre. Elle tardait pour se mettre à niveau. Sagol vit qu'il avait vexé son adjoint. Il se dit qu'à quelques jours de la fin, il lui fallait être moins direct avec lui. Il revint sur le feuillet et lui suggéra de se procurer l'ouvrage en question. Gilles apprécia l'attention. Cette démarche ne devrait pas être trop difficile. Il reste quelques chrétiens sur cette planète, déclara-t-il. Il effectua une recherche via le net et s'aperçut qu'il existait de nombreuses versions de la Bible rédigées en français. Même avec la plus grande fidélité à l'original, il se doutait que la foliotation devait varier d'une version à l'autre. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Le lendemain matin, il arriva devant le distributeur de boissons avec deux bibles sous le bras. Il en possédait une et un collègue lui prêta une version différente. Sagol esquissa un sourire. Alors Gilles, victime d'une vocation tardive ? Chef, pour parler de la Bible, il faut la connaître. Alors, mieux vaut tard que jamais. Les deux hommes dégustèrent leur café avec des croissants généreusement offerts par Sagol qui s'était rendu jusqu'à la boulangerie des Lurons. Ginette avait pris un sacré coup de vieux en quelques mois. Il se garda bien de faire allusion à sa santé. Elle lui demanda si les amis de Mélanie pouvaient espérer l'arrestation de son ignoble assassin. Il lui répondit qu'avant son départ, il espérait répondre favorablement à ses vœux. Il voulait mettre hors d'état de nuire cet ignoble prédateur. Gilles parcourut brièvement les deux versions du grand livre de la chrétienté. Si sur le fond la signification était la même, la formulation changeait d'une version à l'autre. Sagol, qui connaissait un peu la religion catholique, affirma que la version la plus utilisée de nos jours était celle de Louis II. Gilles ouvrit un des livres à la page 235. Les deux comparses récitèrent les injonctions du Deutéronome. Gilles s'arrêta net au milieu d'une phrase. Il déclamait un texte qui figurait sur un des fichiers cryptés du suspect. C'était une incitation à la vengeance. « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Sans plus de commentaires, ils prirent connaissance de la page 753. Sagol ne récita qu'une phrase. Il paria avec son adjoint qu'il venait de taper juste. Gilles acquiesça, bluffé par la perspicacité de ce diable d'homme. Là aussi, le fichier contenait le texte désigné par Sagol. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. La philosophie est une chose trop sérieuse pour la confier à n'importe qui, Gilles. Vous avez raison. Je rajouterai qu'il faut qu'elle soit manipulée par des êtres sains de corps et d'esprit. Dans le cas présent, je doute. Et moi donc, lorsque je vois les élucubrations de cet individu, j'espère qu'il ne va pas rester trop longtemps dans la nature. J'aimerais trouver la troisième citation, chef. Allons-y, mon cher. Le verset de la page 1083 coula de source. Ils déclamèrent ensemble « Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé ». tout était dit. Le meurtrier présumé poursuivait un but de représailles. Il possédait un élément du puzzle, avec les trois renvois mis à jour, notés sur la feuille volante. Il était près de 11 heures lorsque la sonnerie du téléphone résonna dans la pièce. Sagol, le plus près du combiné, décrocha. À l'autre bout du fil se trouvait l'adjudant Ribérac, de la brigade de Libourne en Gironde. Il voulait joindre le responsable de l'enquête concernant Grégory Drieux. Sagol se présenta. Ribérac l'informa que dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 septembre, un véhicule BMW percuta un platane sur une route de Gironde. Seul à bord, le conducteur Grégory Drieux n'avait pas survécu à ses blessures. Ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle, car il aurait aimé avoir en face de lui l'homme qui tuait aussi facilement les vieilles dames et les chats. Il lui aurait demandé ce qui le poussait à agir de la sorte. Car malgré un comportement de détraqué, la minutie des préparatifs et la mise en scène laissaient penser que l'homme devait avoir des raisons pour se comporter ainsi. Il y eut un petit blanc dans la communication. Le temps qu'il encaisse le coup. Il demanda à son interlocuteur de lui donner plus de détails. Ribérac précisa que l'accident s'était déroulé sans témoin, à 5 km de Libourne. Deux hypothèses étaient retenues. Soit Drieux s'était endormi au volant, soit il s'était jeté volontairement contre l'arbre. Les premières constatations ne révélèrent aucune trace de freinage. La voiture ne semblait pas rouler vite, ce qui excluait une perte de contrôle du véhicule, liée à une vitesse excessive. Ce sera un secret de plus qu'il emportera à jamais, se dit Sagol. Il y a aussi autre chose, déclara le gendarme. Nous avons fait une trouvaille bizarre. Ah oui, de quoi s'agit-il? Dans le coffre de la voiture, nous avons découvert un tableau avec une tête de chat clouée et au-dessous, 32 grains de riz collés en forme de cœur. Gilles, qui écoutait la conversation, avait déjà deviné quel était le but funeste du défunt conducteur. L'homme s'apprêtait à exécuter sa basse besogne. Une victime potentielle attendait sans le savoir que son tour vienne. Or, la faucheuse en avait décidé autrement. Sagol demanda à son interlocuteur si les grains de riz avait été examiné de près. Ce dernier répondit que sa brigade ne disposait pas du matériel nécessaire pour des investigations microscopiques. Il insista malgré tout pour que le tableau soit confié au laboratoire central et que les grains de riz soient analysés et comparés aux données des deux affaires précédentes, ainsi qu'avec ceux découverts au domicile de Drieux. La tête clouée était celle d'un chat de gouttière gris. Les collègues de Libourne étaient catégoriques. Il ne s'agissait pas d'un chat de race. Les recherches pour retrouver le propriétaire de l'animal s'avéraient impossibles. Maintenant, l'important résidait dans la découverte du mobile de l'assassin. Outre l'abandon des poursuites judiciaires, Sagol et Gilles voulaient absolument connaître la vérité. Pour eux, la meilleure façon d'écrire le mot fin à leur histoire commune passait par là. Avant de prendre congé, Ribérac ajouta que le conducteur du véhicule n'avait aucune trace d'alcool ou de drogue dans le sang. Sagol mentionna que le suspect avait peut-être eu un éclair de lucidité et que face à l'horreur de ses actes, il avait manqué de courage pour affronter la suite des événements. Sagol remercia son collègue pour ses informations. Aussitôt après avoir raccroché, il se tourna vers Gilles. Pour moi, la partie n'est pas finie. Je ne voudrais pas mourir, idiot. J'aimerais éclaircir quelques zones d'ombre de ce dossier. Je suis d'accord avec vous. La partie sera terminée lorsque nous serons en mesure d'expliquer le pourquoi et le comment. Pour l'instant, nous avons résolu le comment. Il reste le pourquoi. En effet, qu'est-ce qui avait pu amener un jeune homme à de tels gestes? Il fallait avoir enduré de grandes souffrances pour se comporter de la sorte. Il méditait sur la personnalité du tueur présumé de Louise Chauvier et Mélanie Pralon. Ils se jetèrent à corps perdu sur ce dossier. La principale constatation, le suspect n'était pas chinois, mais d'origine bordelaise. Il était écrit que leurs certitudes tomberaient les unes après les autres. Pendant des semaines, ils enquêtèrent dans le milieu asiatique, et voilà maintenant que le probable assassin était un petit gars blanc de pure souche. Sa gueule, sonnée comme un boxeur qui vient de recevoir un uppercut, n'arrivait pas à y croire. Il répéta à son adjoint ses interrogations concernant tout l'aspect chinois du dossier. Les chats qui regardaient en direction de la map monde, un point précis en Chine, la ville de Xian, la provenance des grains de riz cultivés uniquement dans la région de cette ville, la gravure des grains avec des animaux du zodiaque chinois et deux pensées de Confucius. Gilles, lui aussi, évoluait dans un abîme de perplexité. Il appela Ribérac afin d'avoir d'autres explications sur la famille du suspect disparu. L'adjudant s'était penché un peu plus sur le volet de l'affaire traitée à Libourne. Il comprit qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de banal. L'enquête poursuivait son cours sur les origines du chauffeur décédé. Il eut connaissance d'une autre trouvaille. Dans la boîte à gants de la BMW, il y avait une lettre recommandée émanant d'une société multinationale installée dans la banlieue de Grenoble. Le cachet de la poste indiquait la date du 5 janvier de cette année. Il lut le contenu de la lettre dont le destinataire était Grégory Drieux. La correspondance était rédigée ainsi. Comme beaucoup d'entreprises dans le secteur des hautes technologies, notre société est confrontée à une concurrence agressive sur tous les marchés. Afin de garder notre compétitivité, une restructuration s'impose. Dans le cadre de cette réorganisation, la ligne de production est transférée à la filiale de Bombay, Inde. Votre poste de travail étant supprimé, ce courrier a valeur de préavis de licenciement. Votre cessation d'activité interviendra le 4 février avec effet pécuniaire au 1er mars. Une indemnité de départ vous sera allouée selon les règles fixées par la convention collective de l'entreprise. Il venait d'assembler une pièce supplémentaire au patchwork de l'affaire de Mélanie. Gilles fit observer à sa gueule que le préavis se terminait la veille de l'assassinat de la vieille dame. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Voilà encore un méfait de la mondialisation. Cette société est leader sur son marché, et voilà que le montant des profits ne suffit pas. Il en faut toujours plus. Nous allons vers un monde de fous. En effet, avez-vous fait le rapprochement entre la société qui employait Drieux et les grains de riz? Ne me dites pas que vous l'avez fait, Gilles. Eh bien oui, il s'agit d'une entreprise de nanotechnologie. Oui, et alors? Qui dit nanotechnologie dit travail des pièces au millième de millimètre, voire encore plus petit. Je vous vois venir, cher ami. Je serai prêt à vous jouer l'apéro que les grains de riz ont été gravés dans l'entreprise, chef. Possible, mais je crois que seul Drieux aurait pu nous le dire. Nous irons quand même voir sur le site. Je me pose une autre question par rapport à tout ça. Pourquoi Mélanie Pralon? Il y a sûrement un rapport qui a dû nous échapper au début de l'enquête. Il faudra montrer une photo de notre homme, peut-être que la mémoire reviendra à quelqu'un. En cette fin du mois de septembre, l'automne paresseux ne montrait pas encore le bout de son nez. L'été jouait les prolongations. C'est donc par un soleil radieux que Sagol, accompagné de son fidèle Gilles, se présentèrent aux grilles de l'ancien employeur de Grégory Drieux. Le responsable du personnel les reçut avec beaucoup de courtoisie et de compréhension. Sagol exposa le but de sa visite, sans toutefois parler des assassinats dont on soupçonnait leur ancien collaborateur. Drieux avait travaillé 6 années au département gravure. C'était un spécialiste reconnu, et comme tel, le responsable RH fut surpris d'apprendre qu'il n'avait pas retrouvé de travail au jour de l'accident. Sagol demanda si le poste qu'occupait l'ancien employé existait encore. Les machines étaient toujours là dans l'attente imminente d'un départ pour Bombay. Vue par un œil profane, la machine ne payait pas de mine. On aurait dit un gros cube avec un hublot en plexiglas et un clavier de commande alphanumérique sur le devant. Qui aurait pu deviner que ce gros machin, comme disait Sagol, puisse avoir une valeur supérieure à celle de 5 maisons. Tout ce que la technologie engendrait de plus moderne se trouvait dans le cerveau de cet appareil. Sagol obtint une ultime faveur. Il voulait faire un prélèvement des poussières déposées à l'intérieur du gros cube. Le responsable n'y vit aucun inconvénient. Il fit appeler un spécialiste qui recueillit les particules dans un sac fourni à cet effet. De retour au bureau, il s'empressa de confectionner une enveloppe étanche à destination du laboratoire national. Il espérait secrètement faire parler les poussières déposées dans le gros cube. Gilles reproduisit des photos de l'assassin présumé. Après le repas de midi, ils partirent à la rencontre des voisins et relations de Mélanie. Il était trop tôt pour se rendre chez les commerçants du quartier. Ils se rendirent d'abord au domicile du docteur Sahuc. Maureen, toujours aussi belle, les reçut. Après les salutations d'usage, elle appela son époux. Le docteur réagit immédiatement à la vue de la photo représentant le suspect. C'est un ancien locataire de Mélanie, il s'appelle Drieux, je crois. Vous avez raison, il s'appelait Grégory Drieux. Il est mort dans un accident de voiture en Gironde. Dites-moi un peu plus. Il a habité quelques mois chez Madame Pralon, il y a une dizaine d'années. Il faisait ses études. Je n'ai pas su pour quelle raison il était parti de chez elle. Et vous, Madame Sahuc, l'aviez-vous vu? Oui, de temps à autre, il faisait fuir les chats. Sinon, il était un peu efféminé. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? L'intuition, monsieur Sagol. Une femme semblait à cela. Aviez-vous la même approche que votre épouse, docteur? Tout à fait. J'ai toujours pensé que ce garçon était homosexuel. Sinon, j'ai appris que vous nous quittiez. La mort de Mélanie restera donc inexpliquée. Oh que non, docteur. Ne dites pas cela. Vous venez de voir la photo de l'assassin présumé. Nous attendons quelques résultats du laboratoire, mais je ne me trompe pas beaucoup en vous disant que c'est cet individu. D'accord, mais pourquoi? Je me pose la même question que vous. Nous souhaitons résoudre l'énigme avant mon départ. J'espère que vous réussirez. Nous devons bien ça à Mélanie. Si je ne vous revois pas avant votre départ, je vous souhaite pleine réussite dans vos nouvelles fonctions, monsieur Sagol. Merci beaucoup, docteur. Pour vous, tous mes voeux de bonheur tout simplement. Mon petit doigt me dit que vous êtes sur la bonne voie. Merci et au revoir, messieurs. Lorsque Maureen Sahuc eut fermé la porte, son mari déposa un baiser sur ses lèvres. Ensuite, il lui dit « Voilà ce que j'appelle un type bien, professionnel avec du savoir-vivre. Les gens comme lui ne courent plus les rues de nos jours. » Maureen sourit et répondit à son époux. Et en plus, il nous a souhaité du bonheur. Sagol pensait autant de bien du couple Sahuc. Il se disait que rien que pour des rencontres comme celle-là, il adorait son métier. Il cheminait devant la boulangerie Lioran. La boutique était fermée. Léo se hasarda à frapper. Une chance, Loïc vint leur ouvrir. Il était content de voir Sagol. Ils parlèrent de tout et de rien. Il avoua avoir des craintes pour la santé de son épouse et envisager de prendre sa retraite. Ginette arriva 5 minutes plus tard. Toujours la mine fatiguée, elle les salua. Lorsqu'elle vit la photo du suspect, elle sursauta. Sagol lui demanda pourquoi. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais aimé le locataire de Mélanie. Il torturait les chats lorsqu'il arrivait à en capturer. « Je m'en veux de n'avoir pas pensé à ce voyou. Mais il y a au moins 10 ans de cela. » On ne peut penser à tout, Ginette. Je vous remercie de l'avoir reconnu. C'est dommage car vous auriez gagné du temps. Rien n'est moins sûr. Avez-vous autre chose qui vous revient en mémoire le concernant? Je l'ai vu embrasser un autre garçon sous un arbre dans le square. Je pensais qu'il était homo. J'en ai eu la preuve. Après tout, c'était sa vie. Tout à fait. Être homosexuel ne fait pas de vous un assassin. Merci, Ginette. Bonne fin de journée à vous deux et à bientôt. Je passerai avant de partir. Nous y comptons bien et avec Juliette. C'est entendu, Loïc. À bientôt. Le duo marchait sur les pavés du vieux quartier. Gilles rompit le premier le silence. Il dit que le lien entre Grégory et Mélanie était fait. Il restait à trouver le mobile du meurtre. Pour l'instant, les deux hommes étaient dubitatifs. Une certitude, Mélanie Pralon adorait les chats, Grégory Drieux les détestait. Cette différence ne paraissait pas de nature à vouloir la mort de quelqu'un. Il existait certainement une raison plus profonde. Ils s'en convainquirent. Nous étions déjà le mardi 30 septembre. Demain, ils donneraient leur peau d'adieu. Ils attendaient deux informations. Les résultats des analyses pratiquées sur les poussières, recueillies dans la machine où travaillait Drieux, et le retour des investigations effectuées en Gironde concernant sa famille. Dès 8 heures, le téléphone sonna. Ribérac apportait des informations capitales. Grégory était né d'une mère célibataire et de père inconnu. Sa mère Josette l'éleva toute seule. Ce ne fut pas facile tous les jours. Dans les petits villages, les filles mères étaient montrées du doigt et vouées à la vindicte populaire. Les mœurs et les mentalités ont bien évolué de nos jours. Son enfance se déroula dans un village à proximité de Libourne. Tout se passa normalement jusqu'au 40e anniversaire de sa mère. Ce jour-là, Josette Drieux offrit le mousseux et confectionna un gâteau qu'elle souhaitait partager avec son fils et une voisine. Cette dernière, qui s'appelait Louise Chauvier, se présenta à la maison avec une boîte à chaussures à la main. À l'intérieur, il y avait un magnifique petit chat avec un pelage blanc à poils longs. C'était le présent pour Josette. Il s'habitua rapidement à sa nouvelle demeure. Josette et Grégory l'aimèrent beaucoup. Ils le nommèrent Confucius. Il devint rapidement un gros matou. Comme beaucoup d'animaux de son espèce, il était voleur. Un jour, il mangea un joli rôti, au grand désespoir de Josette. Grégory, en rentrant du lycée, lui administra une correction. Le félin, qui était joueur, devint taciturne. Un soir, en rentrant, la vie de Grégory bascula. Il découvrit sa mère gisant, défigurée dans une mare de sang. Dans un accès de folie, le chat s'était acharné sur sa mère. Elle fut dirigée immédiatement sur le centre hospitalier de Bordeaux. Les médecins ne purent sauver ses yeux. Grégory dut admettre la terrible vérité. Elle était aveugle désormais. De retour chez lui, il attrapa le greffier maudit, le tua en lui brisant les reins avec une batte de baseball. Et avant de le jeter dans la décharge municipale, il lui creva les yeux. Les gendarmes venaient de trouver le mobile du crime. La vengeance. L'adjudant Ribérac venait de leur apporter in extremis la réponse à la question qui les tenaillait depuis des semaines. Pourquoi ? Grégory ne quitta plus sa mère, sauf pour se rendre au lycée. La pauvre femme était méconnaissable. Pour calmer ses angoisses, les médecins lui administraient des calmants à haute dose. Elle n'était plus qu'un zombie au bras de son fils. Bientôt, elle ne s'alimenta plus. Après un séjour dans un centre spécialisé, elle revint à la maison. 3 jours plus tard, elle se tailla dans les veines, et ce fut encore Grégory qui la découvrit en rentrant du lycée. Il n'y avait plus rien à faire. 2 yeux blancs le regardaient fixement. Elle allait avoir 42 ans. Elle avait souscrit une assurance vie qui permit à Grégory de continuer ses études. Il réussit son bac et partit étudier à Bordeaux, où il obtint sa maîtrise de physique et ne fit jamais parler de lui. Jusqu'à son arrestation dans la région grenobloise, Gilles et Sagol remercièrent infiniment leurs collègues. La communication dura un long moment, car Ribérac voulait lui aussi comprendre toute l'histoire. Il n'en possédait que la partie girondine. Sagol se dévoua et lui fit une restitution assez honnête des faits. Lorsqu'il les eut assimilés, Ribérac ajouta quelques détails supplémentaires à ses propos. C'était au sujet du père de Grégory. Josette avait dit à son fils qu'il était un riche négociant chinois, originaire de Xian. En bon fils, il crut sa mère et idéalisa ce père absent. Pourtant, il n'avait rien d'un Eurasien. Il ne put jamais se résoudre à croire que sa génitrice lui mentait. Il y avait une telle relation entre eux qu'une hypothèse semblable était inenvisageable. Il était en plein dans le complexe d'Œdipe, ce qui expliquait son homosexualité. Sa quête désespérée de ses origines l'amena à s'intéresser à la Chine jusqu'à la fascination. Ce père, fabriqué par sa mère adorée pour justifier une erreur de jeunesse, le poursuivit. Ribérac souhaita une bonne journée à ses collègues. Il pouvait être content de lui. Il venait de contribuer à la résolution d'une affaire insolite. Sagol lui aussi appréciait l'instant. Avec Gilles, il venait de voir le Pulse se reconstituer sous leurs yeux. En bon philosophe, Gilles eut les clés du comportement de l'assassin. Il y avait les blessures d'enfance, la quête du père absent, le complexe d'Œdipe et l'homosexualité, la perte des repères avec la disparition d'un être cher, le fétichisme et pour finir, la fuite en avant. L'affaire aurait pu constituer un bon sujet de thèse. Confucius avait joué son rôle, incarné sous la forme d'un petit chat adorable. Il s'était transformé à l'âge adulte en un démon sanguinaire. Grégory inconsciemment répéta le schéma. Deux personnalités cohabitaient dans le même homme. L'étudiant brillant, devenu un technicien compétent, était son côté sociable et respectable. L'autre, avec son mysticisme, passa de l'autre côté du miroir. Il pensait à l'empire du milieu jusqu'à l'obsession. Tous ses actes portaient la griffe asiatique. C'était le rejet du père, incarné par le mal, celui qu'il faisait en tuant des vieilles dames coupables d'aimer les chats. Cet animal maudit lui avait pris sa mère. Alors il avait théâtralisé sa vengeance. La Bible justifiait ses errements. Sagol fut alerté par un bip sur l'ordinateur. Un message était arrivé dans sa boîte de messagerie. Il l'ouvrit immédiatement et prit connaissance du contenu. Le laboratoire central venait de terminer l'analyse des particules prélevées sur la machine utilisée par Grégory dans son ex-entreprise. Il fut trouvé principalement deux produits, du silicium et de la farine de riz. Cette farine, comparée aux grains de riz trouvés au domicile du suspect, était identique. Il n'y avait aucun doute permis. Il s'agissait de la même espèce. Il s'adressa à son adjoint. « Mon cher ami, la boucle est bouclée. Notre assassin a gravé les grains sur son lieu de travail. Jamais je n'aurais pu supposer que cette besogne ne soit pas l'œuvre d'un graveur chinois. Oui, dans cette enquête, j'ai au moins appris une chose. Laquelle, mon cher? Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. Il paraît qu'un nommé Confucius a dit cela. Gilles, vous êtes incorrigible, mais pour le cas qui nous occupe, c'est tout à fait de circonstance. Oui, car nous connaissons le but. Par contre, les petits pas qui y mènent se sont arrêtés au pied d'un platane. Voilà une bonne application de la philosophie du dénommé Confucius. Il y a encore deux choses qui clochent, chef. Oui, quoi? La map monde et l'approvisionnement en grains de riz. Je ne comprends pas, Gilles. Eh bien, je pense que les chats ne fixaient pas la ville de Xian. Le globe terrestre était désaxé. Mais alors ça change tout, mon cher. Pas vraiment. Néanmoins, il restera une question à laquelle nous n'aurons pas répondu. Laquelle? Où donc regarder les 32 chats? En effet, Gilles avait raison. Les pompiers avaient heurté la map monde et personne n'y prit garde. Le globe désaxé resta dans cette position. Par une étrange coïncidence, la ville de Xian se retrouva dans la ligne de mire des féens. Ce que les enquêteurs ne sauront jamais, c'est que l'assassin avait positionné le regard des animaux sur la France en essayant de fixer un tout petit village à côté de Libourne. Quant aux grains de riz, Il provenait d'un collègue de travail qui lui avait fait ce cadeau, ramené de son voyage en Chine. C'était aussi bête que cela.